goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est Le Goût du Monde. L'océanographe Anita Conti, il y a 70 ans, l'avait écrit. Le grand bleu est une masse vulnérable, pillée de manière sauvage. C'est un géant qui ne peut plus se défendre. On était en 1952. Mon océan saigne, lui a répondu le 9 juin le réalisateur mauritanien Abderrahman Sissako en ouverture du sommet des océans à l'île. Les océans en danger et la vie aussi. Pourquoi en parler ici? Eh bien, comme le dit la catalane Maria Nicolaou, parce que la cuisine est la plus puissante des armes utiles, révolutionnaires, dont tout le monde dispose. Et que dans chaque casserole réside la possibilité de créer le monde selon nos idéaux et nos sentiments. Quelles sont les convictions des jeunes cuisiniers? Quelle attention enseigner dans les écoles? L'engagement au quotidien pour la préservation des ressources de la mer? Autant de sujets dont nous allons parler tout au long de cette émission avec nos invités cuisiniers. Bonjour Jocelyn Marie.
Bonjour.
La table de Colette à Paris.
Yes.
Formateur, enseignant en cuisine, chef Ferrandi, Nicolas Chéronnet, bonjour.
Bonjour.
L'une des meilleures ouvrières de France, poissonnière et caillère, Eulalie Russe, que nous avons eu au téléphone, et un lauréat, pas n'importe lequel, puisque c'est le lauréat du concours Rellinger de cette année dont nous allons parler, Ilan Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Comment s'engager quand on est cuisinier, quand on est formateur, quand on est futur cuisinier, comment est-ce qu'on s'engage et quelle est notre responsabilité?
Moi, quand j'ai commencé la cuisine il y a 25 ans, les sujets écologiques n'existaient pas. La saisonnalité, on commençait à en entendre parler, mais les problématiques de l'océan, on n'en parlait pas du tout. Moi, j'ai travaillé chez Marc Menot, qui a fermé maintenant, et Marc Menot commandait des barres de ligne qui faisaient 7-8 kilos. Aujourd'hui, vous voulez acheter des barres de ligne de 7-8 kilos, il n'y en a pas. C'est impossible, ou alors... De temps en temps, il y en a et c'est à des prix à plus de 80 euros du kilo. Donc finalement, toutes ces années de cuisine où on a vu finalement ces produits, et il y en a plein d'autres, hein, la noix de Saint-Jacques a énormément réduit en taille parce que trop pêchée et que la noix de Saint-Jacques n'a pas le temps de se développer. Tout ça, ça nous a fait prendre conscience que petit à petit, il va peut-être falloir faire quelque chose parce que le bar de ligne, on ne peut plus en cuisiner, parce que la noix de Saint-Jacques a été difficile à trouver pendant un temps. Et puis, on a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Olivier Rellinger qui, notamment sur le thon rouge, a lancé...
une alerte.
Exactement, en disant « Ah, stop au thon rouge, il faut arrêter ». Et l'humain a réussi à se mettre autour de la table et à se dire comment on peut faire pour organiser le système économique et le système de cuisine pour sauver cette espèce. Et ils ont tous réussi, quoi.
Rappelons quand même que dans la table de Colette, c'est un restaurant particulier.
Ouais,
dans le sens
engagé.
Où vous avez même totalement engagé. Nicolas Chéronnet, vous êtes formateur.
Dans une belle école qui s'appelle Ferrandi. Et donc, tout comme Jocelyn, moi aussi, j'ai commencé en cuisine en travaillant tous les produits qui aujourd'hui ont disparu. J'ai cuisiné de la pibale, de l'anguille, plein de produits qu'il faut évidemment arrêter totalement de cuisiner, de pêcher. Et aujourd'hui, effectivement, à Ferrandi, dans nos enseignements, on arrive à mettre plein de petites choses en place. Il y a encore des axes d'amélioration, mais on a signé la charte éthique océan depuis un certain nombre d'années. Et dans nos pratiques, on utilise des produits autant que possible responsables. Surtout, ce qui est important, c'est la transmission que l'on met en œuvre derrière avec nos étudiants.
Évidemment, je me tourne vers vous, Ilan, jeune cuisinier, dans le début de sa vie professionnelle en cuisine. Cette sensibilité à la durabilité, justement, à la protection de l'environnement, de la planète et des océans, elle vous est venue comment?
C'est quelque chose d'assez compliqué, parce que comme dans nos restaurants, quand on a des postes un peu moins importants, un peu moins responsabilité, c'est compliqué d'agir vraiment et d'avoir une vraie action concrète, on va dire, sur les actions du restaurant. Mmh. Autour de moi, en tout cas, entouré de jeunes cuisiniers qui sont assez impactés par ces idées-là et qui ont cette pensée-là et qui n'hésitent pas à le faire savoir à leurs différents chefs, à leurs différents responsables au restaurant. Et je sais que, en tout cas, de ma promotion, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient une vraie démarche par rapport à ça, parce que je pense qu'on a baigné dedans depuis très jeune, qu'on a ces idées-là. Et que j'espère que toutes ces générations, plus tard, quand on aura des postes plus importants, on saura appliquer ces idées-là dans nos restaurants. J'en suis assez convaincu.
Mais c'est difficile pour vous, quand on commence en cuisine, de dire à son chef « je ne suis pas à l'aise avec cette démarche-là ». Est-ce qu'on peut dire quand même les choses?
Moi, je pense qu'on peut tout dire. Je pense qu'en cuisine, on est une équipe et que n'importe qui peut s'exprimer sur un point qui lui semble pas clair, un point qui lui semble anormal, en particulier sur les producteurs et sur la façon dont on se fournit. C'est quelque chose qui... peut venir beaucoup de la jeunesse parce que c'est des idées qui parfois sont un peu bloquées chez des personnes plus âgées ou des chefs qui sont plus ancrés depuis un moment dans la restauration. Et puis après, on ne va pas se mentir qu'il y a le contexte économique aussi, parce que les restaurants doivent trouver leurs bénéfices, et que je pense que c'est compliqué des fois pour certains restaurants de se produire en poisson issu de la pêche durable. Comment un jeune cuisinier peut s'exprimer dans son restaurant, je pense qu'il peut le faire. Je ne sais pas si ça saura être entendu, mais je pense que n'importe qui ne doit pas hésiter à s'exprimer sur ces sujets-là, et que c'est important que la voix grossisse et que les idées se diffusent plus que encore aujourd'hui.
Mais vous sentez, vous, dans votre restaurant, les profils qui se présentent à la table de Colette, qu'ils ont déjà cet esprit engagé, écologique, avec l'envie justement d'agir concrètement?
De plus en plus.
Jocelyn Marie.
De plus en plus, on a des jeunes qui sont justement très intéressés par toute cette démarche. Et je pense qu'aujourd'hui, les restaurants qui donnent un sens dans le travail ont moins de difficultés à recruter que les restaurants qui finalement sont juste là pour faire une belle cuisine. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas négatif, mais je pense que nous, on a moins de difficultés. Et la deuxième approche aussi intéressante, c'est qu'on est plus résilient parce qu'on a des producteurs qui sont attachés à nous et qui vont faire des efforts.
C'est une sorte de cercle vertueux qui se met en
clairement.
Place. Vous sentez que dans les rangs des nouvelles générations à Ferrandi, il y a un discours comme ça, il y a un esprit qui va dans ce sens-là.
Il y a je pense, une vraie évolution dans la démarche. Alors effectivement, en fonction des parcours des uns et des autres, on va être plus ou moins engagé. C'est assez complexe finalement, il faut quand même s'intéresser au sujet, si on parle du poisson, pour justement avoir une vraie démarche éthique. Par exemple, Éthique Océan a mis en place une petite application. Après effectivement, ce qui est plus compliqué, en tout cas pour le grand public, c'est d'avoir vraiment ce suivi du produit et la traçabilité du produit. On voit vraiment une grande évolution.
Une évolution. Je vous propose d'aller dans le sud. Du côté d'Avignon, enfin entre Carpentras et Avignon, chez Eulalie Russe, qui est poissonnière et cailleur, une des meilleures ouvriers de France, qui a à cœur, elle attache vraiment beaucoup d'importance à la durabilité des poissons qu'elle vend et des coquillages également qu'elle propose. Et pour convaincre, eh bien, elle partage, voire elle éduque le client.
Ma mission, moi, c'est de les éduquer et d'amener de la pédagogie aussi autour de la consommation du poisson, de les dévier de ce qu'ils ont l'habitude de consommer et de ce que tout le monde consomme, quoi. La première des choses, c'est d'expliquer la saisonnalité des produits. Et en fait, la pédagogie, on l'amène par des comparatifs. Voilà, il y a une saison des fraises, par exemple. Et savez-vous qu'il y a une saison des coquilles Saint-Jacques? Et par la discussion, finalement, on amène à changer les comportements de consommation de nos clients. Par exemple, en ce moment, on veut manger du cabillaud parce qu'à la fois, il fait beau, on arrive en Provence, on a envie de manger l'aioli, etc. C'est le poisson qu'on met dans l'aioli. Sauf que le cabillaud, on le sait, c'est une espèce qui est surpêchée, qui n'est pas gérée, qui est menacée, qui, pour nous, n'est pas accessible en respectant des critères de qualité qui pour moi sont indispensables. Avoir un poisson entier en qualité fraîcheur A, c'est-à-dire optimum, pêcher quelques heures ou quelques jours avant d'arriver en boutique. Ça aujourd'hui sur le cabillaud, c'est clairement pas possible. C'est pas possible parce que la ressource elle est complètement effondrée. Sur les côtes françaises, on trouve plus poisson là ou très très peu. Et en plus quand on le trouve, il est mal pêché donc ça va pas quoi. En revanche, il y a une saison du cabillaud qui est pour nous, en tout cas le cabillaud que je commercialise, le scré, qui est du mois de janvier au mois d'avril. Donc pendant cette période-là, on donne accès à cette ressource là, parce que ce cabillaud-là, il est protégé, parce que les stocks sont gérés. Et puis, quand on sort de là et qu'on vient nous demander du cabillaud, on dit, il n'y en a pas. Nous, on décide de ne pas le vendre pour telle et telle raison. Par contre, on peut vous proposer une alternative. Donc, à la fin du printemps, c'était par exemple le lieu jaune. Pareil, le lieu jaune de ligne, sur des poissons qui peuvent être sourcés. Puis, ça peut être l'aigle fin. Puis, ça peut être tout un tas d'alternatives. On a la chance quand même d'avoir sur notre littoral une diversité incroyable de produits. Donc, c'est facile aussi pour nous d'aller renverser les tendances, quoi. En disant, mais il y a toujours une alternative.
Et parfois, il se reconstitue ce stock de
thon rouge. C'est un exemple que j'adore citer parce qu'en fait, c'est un exemple qui nous prouve que quand tout le monde se met autour de la table pour une cause commune, les pouvoirs publics, les pêcheurs, les consommateurs, les diverses associations aussi de protection de l'environnement, on arrive à faire quelque chose, quoi. On arrive à faire quelque chose et ça apporte ses fruits. Ce n'est pas du sacrifice parce que ces restrictions-là, en fait, permettent de continuer à consommer cette espèce, ont permis de faire revenir cette espèce-là en Méditerranée alors qu'elle avait disparu quasiment. Le stock était en menace critique d'extinction. C'était même pas en alerte rouge, c'était en alerte noire. Et parce que, en fait, tout le monde a pris le parti pris de prendre sur soi, de faire un effort, on y est arrivé. Mais ça veut dire qu'on pourrait y arriver pour d'autres choses.
Eulalie Russe, qui était membre aussi du jury du concours Olivier Rollinger, vous étiez en train de nous parler de thon rouge, évidemment, comme tout à l'heure, Jocelyn Marie. Et là, vous disiez la Saint-Jacques aussi. Je ne sais pas toi quand tu as commencé la cuisine, mais...
Moi, je me souviens d'avoir ce qu'on appelle les noix de Saint-Jacques, les 2-3 pièces au kilo. C'est-à-dire que des noix de Saint-Jacques qui sont vraiment très grosses. Moi, quand j'ai arrêté d'en commander, on était sur de la 5-6. Quoi. Et puis là, la très grosse, elle est en train de revenir. Et à Erquy, ils ont fait un gros travail en disant, vous avez le droit de pêcher la Saint-Jacques de telle heure à telle heure, de tel mois à tel mois, et basta. Et le reste du temps, vous laissez reconstituer le stock. Et là, le stock est quand même bien reconstitué. Et si on se met tous autour de la table, on est capable de faire des belles choses, quoi.
Ouais, c'est ce qui va permettre justement de préserver les espèces et puis de les conserver. Quand on parle de poisson durable, on parle de quoi ?
La première chose, c'est l'espèce. C'est-à-dire qu'il faut choisir une espèce qui n'est pas en train de s'effondrer. Et après, la zone de pêche. Vous pouvez avoir, dans telle zone de pêche, le stock de poissons est de bonne qualité, et dans telle zone de pêche, le stock s'est effondré. Donc ça, c'est hyper important. C'est le premier truc à choisir, l'espèce et la zone de pêche. Et après, on va aller sur la technique de pêche. Mais je veux dire, la technique de pêche est peut-être moins impactante, et après, la saisonnalité est aussi importante, mais je veux dire, c'est la priorisation, c'est ça. Mmh. Espèce et la zone de pêche.
Juste une question de saisonnalité. Quand on parle de saisonnalité, on parle de quoi ? Parce qu'elle compare avec les fraises. Alors, pour le coup, tout le monde comprend. Mais saisonnalité pour les poissons.
On ne pêche pas le poisson quand il est en train de se reproduire. Aussi simple que ça.
Donc, c'est clair.
Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, moi, ce que je relèverais, effectivement, dans ce que nous a dit Eulalie, c'est aussi l'éducation, la formation. Donc, elle parle de ses clients qui viennent dans sa boutique, qui viennent acheter du poisson. Nous, en tant que restaurateurs, eh bien, c'est d'abord former et transmettre à nos équipes de salle, parce qu'on peut faire ce qu'on veut dans nos cuisines. Si derrière, on n'a pas une équipe de salle qui est capable de, on dit de vendre, mais surtout d'expliquer aux gens, d'éduquer les gens, en fait, ça ne sert à rien, parce qu'on va faire des poissons que les gens ne connaissent pas, qui ne vont pas oser prendre, à moins d'aller dans des restaurants où, effectivement, on sait ce qu'on va chercher. Mmh. Dans des restaurants plus traditionnels, les valeurs sûres, c'est le cabillaud, le saumon, parce qu'ils savent à peu près ce qu'ils vont voir dans l'assiette. Le reste, bon, il y a des arêtes, on connaît pas.
On a du mal à s'aventurer.
Voilà. Donc, c'est exactement.
Du coup, c'est très important, justement, ce lien, comme vous le disiez. La salle, c'est fondamental.
C'est exactement...
Main dans la main avec la cuisine.
C'est là que, effectivement, les acteurs de la salle rentrent en scène et doivent éduquer le client pour lui donner envie, pour qu'il passe le cap de passer la commande et découvrir les produits.
Oubliez votre cabillaud. Non, mais
exactement.
Complètement. Absolument. Again, of call. Back to what we are and again. We cut the parts of what we know. Again, take it slow. It's the unknown again. And when I take you on to mind the plan to stall. Again, we tell. Again, we dip into the reservoir, and now I pray it'll be enough. Again, lift enough. Back to what I see, and again. Sur RFI, un titre choisi et mitonné par l'équipe de la playlist de RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde. Comment agir à notre échelle pour contribuer à la préservation des océans, des ressources et sauvegarder les espèces menacées ? Des espèces, il y a donc un guide édité par Éthique Océan où on peut trouver donc quel est le poisson qu'on peut manger aujourd'hui, comment il est pêché. Est-ce qu'il est raisonnable ou pas
C'est une véritable Bible.
Ah, c'est une Bible, c'est énorme. Et on se plonge pendant des heures dedans. Ouais. On découvre eh bien, par exemple, que l'anguille est menacée, et même très gravement menacée aujourd'hui.
Moi, j'ai appris récemment que l'anguille venait se reproduire en France et après repartait dans le monde entier. Donc, c'est un poisson qui migre énormément. Et donc, si nous, Français, on ne protège pas l'anguille, bah, en fait, l'anguille va disparaître de la surface de la Terre. Il faut défendre ça. Il faut juste arrêter d'en manger là, pendant quelques années, et puis après, elle va,
le temps
elle
que va le se stock reconstituer,
c'est ça. C'est ça, il faut la laisser tranquille.
Ouais, complètement. Ilan Rosenberg, donc vous avez gagné, remporté l'édition 2025 du concours Olivier Rollinger, qui est vraiment un concours dont le but est très simple, c'est vraiment de valoriser et de préserver les ressources de la mer. Qu'est-ce que vous avez cuisiné et quel était déjà le thème de l'épreuve?
Alors le thème, il était assez simple. En fait, c'est un concours où il n'y a pas vraiment de thème. Le thème, c'est juste de travailler un poisson issu d'une pêche durable.
Et que vous devez choisir ou qui vous est proposé?
Dont on a le choix. C'est très très libre. On a une grande liberté sur le sujet. C'est juste deux épreuves. Une épreuve type gastronomique. Et avec ce même poisson et éventuellement ces mêmes crustacés, coquillages et algues, on travaille en deuxième temps sur un plat plus type à la maison, qu'on devra faire en moins de temps.
Donc une traduction d'un... Okay,
deux visions du même poisson, une vision plus gastronomique et une vision plus simple d'approche, je pense, pour n'importe qui et pour que tout le monde puisse se projeter dans cette idée-là.
Et alors, quel poisson avez-vous cuisiné et comment?
Alors moi, j'ai travaillé le grondin perlon.
Alors c'est un poisson qui vit où d'ordinaire?
Sur les côtes, on a beaucoup sur les côtes françaises, plutôt proche des rochers, c'est un poisson dit de roche et qu'on met souvent en mauvais jumeau, en vilain petit canard du rouget
barbet,
parce qu'on appelle ce poisson un mauvais titre rouget grondin. Ça, c'est une appellation qu'on voit beaucoup, y compris chez les poissonniers. Rouget grondin, on en entend partout, c'est une fausse appellation. Et du coup, il y a une vision un peu comme le mauvais rouget. Donc c'est un poisson qui est assez boudé, d'accord, et pourtant assez présent sur les côtes et qui gagnerait à être plus mangé, parce qu'au-delà de tout ce dont on parle, etc., on peut parler de goût, et c'est un poisson qui a un super goût, donc... Ouais. Je trouvais ça intéressant d'en parler, de le travailler.
Ouais, j'aime bien le sourire dans « C'est un poisson qui a un super goût
». Bah ouais, on n'en parle pas, mais c'est vrai que c'est un point important. En fin de compte, on cuisine, donc il faut parler aussi du goût. Et c'est vrai que c'est un super poisson.
L'avez cuisiné donc ce grondin, et vous avez cuisiné quoi avec?
Je pourrais détailler, mais je parlais plutôt de l'idée générale, c'était de le travailler entier. On dit beaucoup « j'ai tout travaillé, la tête à la queue », beaucoup de gens le disent. Est-ce qu'il fait vraiment... Là, j'ai vraiment essayé de rechercher qu'est-ce qui est comestible et jusqu'où on peut aller pour réduire les déchets au maximum. On sait que sur les poissons, de manière générale, on va dire la vérité, dans beaucoup de restaurants, presque une moitié, voire une bonne moitié du poisson est jeté, tout simplement jeté. À Rungis, c'est pareil, une grande partie du poisson est jeté. En fait, on parle de durabilité, on parle de tous ces critères. On peut parler aussi du fait qu'il y a un gâchis énorme une fois que le poisson est pêché. Et voilà, l'idée, c'est de réduire au maximum ce presque parfois 50-40% du poisson qui est jeté, donc arête, abat, etc. Tête, par exemple. Plus voir le poisson comme deux filets sur une arête, mais voir le poisson dans sa globalité. Et donc, j'ai travaillé toutes les arêtes dans une sauce, une type soupe provençale. J'ai travaillé la tête dans une assiette satellite à côté. J'ai travaillé les abats, foie, rate, cœur. Et on pourrait imaginer, j'ai travaillé la peau en chips. On peut imaginer aller encore plus loin. J'ai réussi à arriver sur un 8-10% de gâchis sur le poisson. Et je pense qu'on pourra réussir à presque arriver à 5%. Ça serait super.
Il vous restait beaucoup de déchets à la fin?
Très peu, très peu. En tout cas, sur l'épreuve, j'avais tout chiffré en amont dans mes entraînements, mais je partais, en fait, dans ma sauce, je finissais par broyer les arêtes. Donc à la fin, dans ma poubelle, j'avais même pas un petit dixième du poisson qui restait en masse, je veux dire, en masse brute du poisson, il restait quasiment rien. C'était en tout cas l'idée de ma recette.
En tout cas, c'est ce qui a complètement séduit, que vous ayez tout travaillé. J'imagine que c'est du petit lait quand on entend un cuisinier parler comme ça, d'aller jusqu'au bout de cette épreuve et de sa réflexion.
Ouais, clairement.
Pour le formateur comme pour le cuisinier déjà en action.
Ce qui fait un peu aussi la complexité du concours Olivier Rollinger, c'est que en fait, c'est pas juste ce qui se passe dans l'assiette. C'est-à-dire qu'il y a toute la démarche dans la cuisine, il y a toute la démarche aussi de pourquoi cette assiette a été créée et qu'est-ce qu'il y a derrière, quel savoir il y a derrière. Et puis l'objectif, on parle d'équipage une fois que les jeunes ont fait ce concours, parce qu'en fait, ils font partie d'un équipage et tout le monde est sur le même bateau et tout le monde va dans le même sens, c'est-à-dire défendre l'océan. Tous ceux qui ont participé au concours, Olivier Rollinger reste dans une espèce de famille. Et puis derrière, il y a plein d'événements. Ils sont invités. Enfin, moi, mon ancien sous-chef a fini deuxième du concours il y a quelques années. Et il était tout le temps invité à partir. Il a fait des trucs formidables où j'étais jaloux. J'étais jaloux, je vais être honnête.
On a le droit de le dire.
On le salue, c'est Quentin.
Ouais. J'ai posé la question évidemment à Eulalie, parce qu'elle était jury du concours. Et elle a été assez surprise lors de ce concours.
C'est une démarche, en fait, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Quand on fait du poisson durable, ça veut dire aussi... pour un cuisinier, par exemple, d'aller utiliser et d'aller valoriser complètement toutes les parties du poisson. Et encore, voilà, quelques-uns des candidats, par exemple, bon, ben, ont prélevé la partie qui les intéressait, un joli filet, un joli dos. Ils ont fait leur plat avec, ils ont sélectionné leur espèce parce qu'elle répondait à des critères de durabilité. Et par ailleurs, voilà, une fois que le morceau était prélevé, ben, qu'est-ce qu'on fait de l'arête, qu'est-ce qu'on fait de la tête? La démarche, en fait, elle méritait d'être creusée. C'est un peu la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et à la fois, il faut aller plus loin, il faut prendre le temps aussi, voilà, de réfléchir à l'impact de ce qu'on fait. C'est comme de faire cuire, voilà, du poisson ou des produits sous vide dans une poche en plastique, est-ce que ça vraiment c'est durable? Donc voilà, c'est de faire infuser toute cette démarche-là pour aller jusqu'au bout finalement. Et ça passe par l'éducation, véritablement. Il faut éduquer voilà, les étudiants en cuisine, puis même nos enfants de façon générale.
Est-ce que vous proposez ça à vos clients aussi?
Ça fait partie de la discussion. Ce que je disais, c'est de la pédagogie et de l'échange, c'est de dire bah, ce qu'on fait systématiquement, c'est voilà, quand on nous demande de lever un poisson en filet, on propose aux clients de garder les têtes et les arêtes. Et souvent, les clients nous disent mais non, j'ai pas le temps. Mais en fait, et ce même client peut nous dire mais c'est quand même c'est cher pour deux filets, c'est cher. Sauf qu'en fait, si tu gardes l'arête et la tête, déjà, bah, tu gardes la matière et tu vas pouvoir faire un plat supplémentaire avec le poisson que tu as payé, puisque moi, je l'ai pesé entier. Je lui ai certainement sorti les filets. Donc avec les filets, il va peut-être faire un repas pour deux, mais avec des têtes et des arêtes, il peut aussi faire un repas pour deux. Et du coup, le coût de son poisson, bah, il diminue, quoi, parce que forcément, au lieu de faire deux plats, si on en fait quatre, déjà, c'est pas la même histoire. Et souvent, on nous dit, voilà, j'ai pas le temps, et ça, c'est pour nous, c'est un peu dur à entendre, parce qu'en fait, mettre une tête de poisson et des arêtes dans une cocotte avec quatre légumes, des condiments, une gousse d'ail écrasée, un oignon avec des clous de girofle, bah, c'est pas très long au final. Et c'est ultra facile, quoi. Donc nous, on parle de tout ça avec nos clients, on leur dit, mais c'est un travail de longue haleine. Ça fait 8 ans, moi, que j'ai ouvert ma boutique et ça fait 8 ans qu'on répète les mêmes choses. Donc c'est pas gagné. Il faut vraiment, faut pas lâcher, quoi. Enfin, moi, en ce moment, je vous cache pas et je peux le dire, je suis un peu démoralisée de voir qu'on a de plus en plus de mal à vendre en boutique un poisson entier et que quand on arrive à vendre une jolie pièce de poisson entière, ben, une fois sur deux, on nous demande de le sortir en filet et une fois sur deux, c'est nous qui gardons l'arête pour la valoriser, mais sinon le client ne la prend pas, quoi. Et je me dis, mais c'est quand même pas sorcier et puis surtout, c'est tellement bon. C'est tellement bon, je veux dire, voilà, d'agrémenter un plat avec un bouillon de poisson, un fumet, ça change tout, quoi.
Une histoire de culture culinaire, j'ai envie que vous réagissiez à ce que vient de dire Lali, ça vous évoque quoi? Déjà, elle était très tellement rassurée de vous avoir vu cuisiner, d'avoir pu goûter, Ilan, le poisson que vous avez préparé pour le concours, parce qu'elle s'est dit, bah, il y a de l'espoir, en fait.
Mais je pense que c'est juste des codes. C'est des choses dont on ne parle pas, en fait. C'est des choses que, en tout cas, dans un contexte gastronomique, je parle, parce que c'était plutôt l'esprit, quand même, on ne va pas se mentir, du concours et de l'épreuve. On ne parle pas de l'entièreté d'un poisson. En fait, on n'en parle pas. Pour beaucoup de cuisiniers qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui voient les poissons arriver, parfois même en filet ou entier, mais dont on prélève les filets. Il n'y a pas cette idée-là parce que sur la viande, c'est une évidence qu'on peut travailler à base. Sur le légume, maintenant, on travaille
on cuit
beaucoup
la viande
plus.
Sur l'os.
Voilà, le légume, on le travaille en entier. C'est quelque chose qui est hyper. Il y a beaucoup de communication dessus. Tout le monde en parle. On ne jette rien. Sur le poisson, c'est complètement l'omerta. Personne n'en parle. Mais c'est une réalité. Et beaucoup de gens en cuisine n'y pensent même pas. En fait, c'est ça, de repartir à zéro, de prendre du recul et de voir le poisson, de le regarder et de dire en fait, mon poisson, il pèse 1 kg, il n'y a pas 500 grammes de filet. Mmh. Et ça, c'est le truc où elle parle d'éducation, mais je pense qu'elle n'est pas du tout faite, l'éducation. Personne n'en parle, personne n'en parle.
Et de culture, parce que quand on va en Afrique de l'Ouest, par exemple, on ne pense pas cuisiner le poisson sans cuisiner l'arête. C'est une évidence, on garde tout. Et c'est le poisson entier qui fait le goût et qui fait qu'on va le cuisiner. Et c'est vraiment des histoires de culture culinaire. Comment est-ce qu'on fait pour... est-ce qu'il faudrait des recettes? Comment est-ce qu'on fait pour, justement, bah, chez Ferrandi, typiquement, comment est-ce qu'on fait pour que cette arête, ces parures, que tout le poisson en entier soit pris en compte?
Alors, pour les professionnels, il y a différentes étapes. C'est-à-dire que si on fait le choix, si on sait qu'on va travailler uniquement le filet, dans ce cas-là, il ne faut acheter que le filet. Comme ça, les arêtes vont rester dans les labos de découpe et vont être transformées après pour faire des farines, pour faire d'autres préparations. Et du coup, ça sera valorisé dans son intégralité. Si effectivement, on travaille des produits de qualité et qu'on veut travailler un poisson entier, là, effectivement, quand on a le poisson entier, on va réaliser des fumets. On peut aller plus loin. La tendance va être à faire des garums en faisant fermenter effectivement les arêtes. Mais pour rester sur des choses plus simples, un petit bouillon voilà, pour agrémenter une préparation. Quand on a levé son filet, si on le prépare avant, eh bien, s'il en reste un petit peu sur l'arête, on vient gratter avec une cuillère pour récupérer cette préparation. Pourquoi pas faire une petite raviole avec, qu'on vient drapocher dans notre fumée. Effectivement, avec un poisson, en réduisant un peu les grammages, bah effectivement, il vaut mieux prendre un poisson de qualité, le payer un petit peu plus cher. Mais au lieu de faire deux préparations, on pourra en faire trois, quatre, en manger plusieurs fois et avoir du plaisir autour de ça.
Ouais. C'est ça une approche durable du poisson.
C'est ça,
tout
on travaille sur...
ne rien gaspiller.
Tout utiliser. Et c'est une éducation.
Ilan, j'ai dit à Eulalie, peut-être que vous pourriez faire une fiche recette pour ses clients. Parce qu'après, c'est main dans la main, parce que la poissonnière qui propose une fiche recette, donc les clients peuvent repartir avec la tête et les arêtes, c'est une autre démarche, c'est autre chose, mais après, c'est un autre travail.
Ouais, peut-être proposer quelque chose pour qu'il soit plus facile de se projeter pour les clients, je sais pas. Peut-être aussi, parce qu'on parle aussi du milieu professionnel, c'est les professionnels qui guident après la tendance pour les cuisiniers amateurs ou à la maison. Peut-être mettre en avant aussi le guide des espèces et essayer de porter cette voix plus fort qu'elle l'est actuellement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Moi, je suis parisien. Sur les marchés parisiens, il n'y a qu'à voir. Hein. Vous allez en poissonnerie ou sur les marchés parisiens au centre poisson, la traçabilité, ce n'est pas toujours le cas. La technique de pêche, des fois, l'étiquette, elle est un peu vrillée, on ne voit pas trop. Et après, parler avec les poissonniers, et pour beaucoup, ils ne sauront pas vous dire. Et c'est juste la loi du prix, en fait. Et savoir remettre la conscience autour de tout ça et essayer de remettre du sens et qu'on voit ce qu'est un poisson et qu'on arrête de fermer les yeux, peut-être.
Moi, quand on vous écoute, on se dit qu'on peut avoir confiance dans la nouvelle génération.
Je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Il faut pas. Ça fait peur ce qui arrive, mais l'humain a toujours eu une grande capacité à évoluer, à changer. Moi, je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Ce qui s'est passé sur le thon rouge, ce qui se passe sur la Saint-Jacques, on est capable de se mettre tous autour de la table en disant non, mais ça, stop, on arrête. Et quand le peuple, les gens se seront mobilisés, ils vont réussir à convaincre les politiques. Aujourd'hui, c'est ça où on a un peu de mal. C'est à ce que les politiques retrouvent leur courage pour faire des choses concrètes et arrêter de donner de l'argent aux lobbies, quoi. Mais il y a de l'espoir, il faut garder cet espoir, c'est important.
Très important, je dirais, surtout de s'engager, d'avoir des petites actions au quotidien pour le grand public. Il ne faut pas attendre de se dire bah, un jour je serai parfait, j'aurai une démarche parfaite. C'est pas grave d'avoir mangé une fois du saumon parce qu'on était au restaurant, on n'avait pas le choix. Voilà.
Même des gens comme Camille Etienne ou comme Cyril Dion, moi je les reçois au restaurant et on en discute souvent. Et c'est pas grave, le tout c'est de faire des choses. Et en plus, faire des choses, ça enlève l'angoisse du truc qui nous arrive sur la tête en disant mais on ne va pas y arriver. Non, chacun fait un petit peu, soyons fiers des choses positives qu'on fait et puis arrêtons de se culpabiliser. Quoi.
Voilà, des petites actions, plein de petites choses dans notre quotidien qui vont faire qu'on va faire bouger les choses, on va les faire avancer. On espère que plein de belles choses vont ressortir de l'UNOC qui vient de se passer à Nice et que derrière, effectivement, il y aura une dimension politique. À travers nos actions avec Éthique Océan, on arrive à faire des petites choses. Éthique Océan, pour les restaurateurs, c'est juste une charte. Hein. Mm-hmm. Une charte qui permet effectivement aux restaurateurs de s'engager, de dire qu'ils auront une bonne démarche. Ça ne les oblige pas à être parfaits, d'avoir une démarche parfaite au quotidien, mais c'est déjà un état d'esprit. Mm-hmm. Et donc, j'invite tous les restaurateurs à signer cette charte et s'engager pour faire de leur mieux.
Éthiqueocéan.org.
Exactement.
On est d'accord. Merci beaucoup.
Pour s'inscrire et pourquoi pas faire des dons.
Bien joué.
Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, Eulalie Russe chez Eulalie à Lille-sur-la-Sorgue. Ilan Rosenberg, vainqueur du concours Olivier Rollinger. Jocelyn Marie, la table de Colette, c'est dans le 5e arrondissement, 17 rue Laplace. Nicolas Chéronnet, enseignant formateur chez Ferrandi, l'école Ferrandi à Paris. L'adresse, je ne me souviens plus de l'adresse d'ailleurs.
28 rue de l'Abbé Grégoire. À Paris,
merci beaucoup à Elisabeth Vallet, bien sûr, d'Éthique Océan, qui nous a permis à tous de nous rencontrer et de nous asseoir à cette table aujourd'hui. Pour vous suivre sur la page de l'émission, bien sûr, j'ai mis tous les liens pour permettre de vous suivre, vos établissements et puis de continuer à vous accompagner. Merci beaucoup à Jérémy Boucher pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. À vous tous de votre fidélité. Le Goût du Monde à retrouver quand vous le voulez en podcast sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.